Bonjour à toutes et à tous dans le mag. Aujourd'hui, un nouvel épisode dans les coulisses de Cap Môme. On est à un mois du festival de Luc La Primo. Bon, on va aussi s'intéresser aux agents du conseil départemental qui manifestaient vendredi. Et on commence le mag aujourd'hui avec Patrice Abella. Il est arrivé à Rodez hier soir. Patrice, il court à travers la France afin de nous sensibiliser à l'insensibilité, justement, congénitale à la douleur. Bonjour Patrice.
Bonjour David.
Patrice Abella, vous êtes le créateur d'une association qui s'appelle Coralisé, on va en parler. Mais ce dont on va commencer par parler, c'est ce Tour de France de course à pied que vous avez démarré au mois d'avril, je crois, depuis Copenhague au Danemark, qui aboutira, je vous le souhaite, à Paris à la fin du mois de juillet. Et qu'est-ce qui fait courir Patrice quasiment un marathon par jour? C'est une cause, c'est pour nous sensibiliser à l'insensibilité, justement, congénitale à la douleur, Patrice. Alors, l'insensibilité congénitale à la douleur, moi, j'aurais envie de vous dire comme ça à première vue, c'est plutôt un super pouvoir qu'un problème.
Ça peut paraître tout de suite comme un super pouvoir, effectivement, car on ne sent pas le mal, on n'a aucun ressenti. Par contre, le mal nous apprend beaucoup de choses. Et là, le fait de ne pas le ressentir, on se fait vraiment mal. Et c'est le cas de mes deux filles, qui ont 12 et 13 ans, qui ont ça depuis leur naissance, parce que c'est congénital. Et elles se font très très mal, et aujourd'hui, elles ne peuvent plus marcher. Aujourd'hui, la plus grande des deux a perdu une phalange de tous les doigts. Donc c'est vraiment très très grave.
Mais alors, quand on parle d'insensibilité congénitale, ça veut dire génétique, à la douleur, c'est vraiment à toutes les douleurs, vos filles, elles ressentent aucune douleur. C'est-à-dire qu'elles ont pas mal aux dents, quand elles se brûlent, ça fait pas mal, rien.
Alors c'est compliqué la douleur, mais a priori, pour elles ne ressentent rien nulle part. Elles vont sentir le froid, mais elles vont pas sentir le très froid. Elles vont sentir le chaud, mais pas le brûlant.
D'accord.
Donc elles peuvent leur mettre la main au feu, elles peuvent s'ouvrir les membres sans ressentir quoi que ce soit, parce que c'est cette information qui est inhibée par le cerveau.
Et comment on se rend compte de cette maladie, puisque ça en est une? Parce que pour le coup, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que tout va bien, puisque on n'a jamais mal.
Alors nous, en tant que parents, on s'en est rendu compte tout simplement quand elles ont commencé à marcher. Quand la plus grande des deux, qui a maintenant 13 ans, a commencé à marcher, un enfant, quand il marche, au départ, il se fait mal sans le savoir et il corrige tout de suite. Elle n'a pas corrigé. Et puis un jour, on était en vacances, on était à la Grande Motte, et là, on est allé voir un médecin parce qu'elle avait une ostéite. Alors à l'époque, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Une ostéite, c'est une infection au niveau d'un orteil, au niveau osseux. Le docteur a dit, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je viens de lui faire ce qui peut être assimilé aux pires tortures dans certains pays par le passé. Et là, elle s'est endormie. Donc là, il y a une anomalie quelque part.
D'accord.
Et à partir de là, on a commencé à faire des tests.
C'est une maladie rare, très rare ou...
Alors, c'est compliqué. C'est déjà difficile de qualifier ça de maladie parce que c'est plutôt un dysfonctionnement ou une pathologie. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape. C'est un dysfonctionnement de l'organisme. Je ne sais pas trop comment ça s'est généré. On a testé plusieurs gènes sur mes filles, mais on n'a pas identifié quel était le gène qui provoquait ce dysfonctionnement-là.
Il n'y a aucun traitement qui existe actuellement?
Non, il n'y a pas de traitement. Ce qu'on recherche là, ou ce qu'on recherche au travers de l'association aujourd'hui, ce n'est pas tant de leur remettre de la douleur.
Ouais.
Ça, ce n'est pas l'objectif. C'est plutôt d'essayer de combattre les conséquences. Car les conséquences, elles sont beaucoup plus graves. On peut, le fait de ne pas ressentir progressivement, ça abîme toutes les extrémités. Je disais tout à l'heure,
mais comment,
les doigts.
Comment ça se fait? Parce que je ne vois pas pourquoi.
Le problème, c'est qu'elles ont... La douleur, c'est une limite aussi au niveau de l'organisme. C'est on ne va pas taper trop fort. On ne va pas reproduire 10 000 fois le même mouvement. Un mouvement qui peut être anodin, on va l'arrêter assez rapidement dès lors qu'on a la douleur.
Mmh.
Mais dès lors qu'on n'a plus de douleur, on va pouvoir le faire 1000 fois. Et un petit frottement, ça devient une ouverture. Ça devient une infection. Et les bactéries, par contre, elles, ça donne à cœur joie, puisque dès lors qu'il y a une ouverture, elles peuvent rentrer dans l'organisme. Et ensuite, on tombe sur des problématiques liées aux bactéries qui, elles, progressivement, gagnent un peu du terrain, un peu tous les jours. Et c'est là où on en est aujourd'hui, et c'est ce qui est assez grave, ou très grave. Aujourd'hui, mes filles passent quasiment 3 mois de leur, de leur année à l'hôpital, ouais. Parce que les infections, ben, au départ, on arrive à les combattre avec des antibiotiques, en les avalant tout simplement, et puis après, elles ne sont pas assez puissantes, ces antibiotiques-là, parce que les bactéries, elles, de génération en génération, elles ont des cycles de vie qui sont particulièrement courts, ben, de génération, elles deviennent de plus en plus résistantes. Donc là, on est obligé d'utiliser la partie intraveineuse, donc de faire par intraveineuse, comme on peut le faire à l'hôpital. Et ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser les veines tout le temps, autrement on les abîme. Oui. C'est ce qui s'est passé sur mes filles. Et là, maintenant, ben, on leur met des mécanismes autres qui injectent les antibiotiques directement au niveau du cœur.
Alors bon, j'imagine que vos filles, dès que vous avez appris ce grave problème de dysfonctionnement, il y a eu toute une éducation pour expliquer bah, le feu, ça brûle, et attention à tout un tas de choses. Et puis on continue, j'imagine que vous les avez sous surveillance, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Alors on ne les a pas non plus sous cocon, mais il a fallu, en termes d'apprentissage, la douleur fait partie de notre apprentissage. On n'en a aucune conscience, mais au final, c'est bien le cas. Mmh. Quand un enfant tombe et s'ouvre le genou ou se fait une plaie quelconque, ben, on va essayer d'être autour de lui pour le cajoler. Pour lui, là, non, on est obligé de raisonner différemment. On est obligé de les gronder pour leur apprendre par un autre mécanisme, parce qu'elles n'ont pas appris par le sens de la douleur, par leur corps. Quand un enfant a 15 ans, c'est une chose, mais quand elle a 3 ans, ben c'est plus compliqué, donc on les grondait. Oui. Et elle, en réaction naturelle d'un enfant, ben, elle avait tendance à cacher, elle mettait la main au feu, ou elle touchait un plat trop chaud, ou elle se cassait tout simplement un bras, elle pouvait faire ce genre de choses. Ben, elle le cachait plutôt, elle disait, voilà, on voyait nous juste par le résultat, vous voyez que c'était rouge.
Alors c'est une maladie, vous savez à peu près combien il y a de cas en France de ce dysfonctionnement, cette insensibilité congénitale à la douleur?
Alors non, justement, et c'est bien le sens même de l'association, l'objectif étant de les identifier. Donc il y a eu plusieurs malades qui se sont rapprochés de notre association, de par le Tour de France en 90 marathons, pour dire, ben, pour crier un peu... le fait qu'ils se sentaient seuls, ils pensaient être seuls au monde. Mmh. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres personnes. Et ils ne sont pas nombreux, c'est qualifié comme maladie rare, même si c'est plutôt une pathologie qu'une maladie. On n'a pas aujourd'hui identifié, c'est l'objectif un petit peu de cette association. Mmh. Et au niveau médical et scientifique, non plus, il n'y a pas eu d'études véritablement menées en France par rapport à ça. Mmh. Donc on essaie de mener cette croisade-là.
Voilà, alors pour sensibiliser les chercheurs, la recherche scientifique et puis de façon plus générale la population. Donc vous courez depuis le mois d'avril un marathon chacune de vos étapes, hein, plus de 40 km. Vous êtes parti du Danemark et vous arrivez cet après-midi à Rhodes, ici en Aveyron.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc là je suis à la 14e, je finis la 14e, j'arriverai à la 15e étape du tour. Et pour moi, chacune des étapes est subdivisée de 1 à 5 selon les distances. Par exemple, à Copenhague, il y avait 15 km, donc je l'ai fait en une fois. Mais après, les autres étapes du tour sont plutôt de 200 km, donc je les subdivise aux alentours de 4 ou voire 5.
D'accord.
Ça dépend si c'est la montagne ou non. Je me suis arrêté de travailler pendant 3 mois et demi. Pour justement sensibiliser le grand public, interpeller la communauté scientifique et médicale et aussi faire en sorte qu'il y ait un lien entre les différents atteints par rapport à l'insensibilité, par rapport à l'ICD.
Rhodes, vous allez quitter la préfecture de l'Aveyron jeudi, on continue vers le sud ?
Tout à fait, vers Carcassonne.
D'accord.
Donc là, c'est direction les Pyrénées ensuite.
Ouais.
Donc Carcassonne sera la prochaine étape. Donc Rhodes-Carcassonne.
D'accord. De toute façon, votre parcours, vos étapes, on les retrouve sur le site de l'association que vous avez créée. L'association, c'est Coralisée. Ça s'écrit Coralisée. Ça doit être l'association des deux prénoms de vos filles.
Tout à fait. C'est Coraline d'un côté et Alizée de l'autre. Donc effectivement, c'est là le nom de l'association. Et là, on a un site internet sur lequel on a toutes les informations sur le parcours et sur l'ICD, bien évidemment. Et ensuite, on nous a demandé, pas mal de personnes nous demandent de participer ou de m'accompagner en particulier.
Ah ouais.
Donc là, je vais mettre à disposition, normalement d'ici deux jours, pour qu'on puisse être avec moi et courir un peu à côté de moi aussi. Donc voilà, ce sera une belle expérience aussi,
ouais, sympa.
Surtout dans les Pyrénées.
Et le site internet, bon, c'est pour nous donner de l'info autour de l'insensibilité congénitale à la douleur, mais aussi notamment pour recueillir des dons, hein, pour peut-être faire avancer un petit peu la recherche, mener d'autres actions.
Voilà, tout à fait. Pour amplifier la communication d'une part, et surtout faire avancer la recherche sur les conséquences. Alors les conséquences, c'est pas uniquement l'ICD, c'est aussi les maladies nosocomiales, les problèmes de cicatrisation, les problèmes autour de l'handicap aussi. Ouais, puisque mes filles aujourd'hui ne peuvent plus marcher, comme je le disais, parce qu'elles se sont abîmées deux articulations au niveau de leur genou, un genou chacune, qui fait qu'aujourd'hui, les médecins n'ont plus trop de solutions. Et l'objectif, c'est d'ouvrir un petit peu les recherches par rapport à ça, pour voir comment on peut les réparer un peu, pour qu'ils puissent avoir une vie et être intégrés dans la vie de tout un chacun.
Bien sûr. Eh ben, on va souhaiter bon courage à vos deux filles, déjà, Patrice, pour commencer, pour les années à venir. Merci. Bon courage à vous dans la suite de ce Tour de France en course à pied, à base de marathons presque quotidiens, des marathons qui vont vous mener jusqu'à Paris avec une arrivée prévue le 25 juillet. Hein.
Le 25 juillet, tout à fait, un jour après le Tour de France.
Ah oui, c'est vrai.
L'objectif, c'était de ne pas arriver en même temps, pour ne pas être masqué totalement par le Tour de France. Mmh. Mais voilà, et d'être plutôt, d'avoir un peu d'être supporté par le Tour de France. Donc voilà, on est en train d'essayer de se rapprocher du Tour de France pour amplifier encore la communication. C'est vraiment un projet de communication, même si le tenant sportif est quand même notoire.
Oui, je vous fais pas dire. Merci beaucoup Patrice, bonne
Merci
course,
beaucoup,
bonne journée dans l'Aveyron aujourd'hui et demain, et puis dans notre grande région d'Occitanie, dans les prochains jours, prochaines semaines.
Merci beaucoup.
Merci Patrice. CFM Le Mag, on passe maintenant au mécontentement des agents du conseil départemental de l'Aveyron. Il manifestait vendredi dernier. Cédric Morse est le secrétaire général départemental CGT au conseil départemental. Arnaud Villefranc est délégué syndical CFDT au même conseil départemental.
Alors le problème des agents, de manière générale, c'est on demande une augmentation du régime indemnitaire au vu de l'inflation et aussi du gel du point d'indice. Et du fait que le régime indemnitaire, c'est les primes, en fait. Et on n'a pas été augmenté depuis 2015. Donc on demande une augmentation générale. Et depuis la nouvelle mandature, on n'a aucune date qui nous est proposée. Et ça commence à tirer pour notamment les plus petits salaires, c'est-à-dire les catégories C. L'ambiance générale ensuite dans les services, et mon collègue aussi de la CFDT pourra en témoigner, elle est pas bonne du tout, elle est plutôt, elle est pas malsaine, mais elle est plutôt triste, et les gens se sentent méprisés par cette nouvelle mandature, ils ne se sentent pas écoutés. Qu'il y ait des réorganisations, ça ne nous pose aucun problème à nous, syndicats, et aux agents, c'est l'avis des institutions, il n'y a aucun souci. Simplement, quand on ne prend pas en compte l'avis des gens, leurs compétences, leurs souhaits, le fait qu'ils connaissent le travail, voilà, ils se sentent méprisés et complètement oubliés.
Et ça, vous voulez dire au niveau des services ou carrément ça vient de la tête du département qui diffuse un petit peu cette ambiance dans tous les services.
Ah oui, ce sont les élus de la nouvelle mandature, puisque les directeurs généraux et même nos directeurs sur le terrain sont à peu près les mêmes qu'avant la mandature. Donc c'est vraiment, on sent le poids de cette nouvelle mandature.
Et le poids, c'est quoi? C'est une pression ou le fait de ne pas être écouté, entendu, pas avoir de rendez-vous particulier?
Alors, on a des rendez-vous. On est entendu mais pas écouté. C'est-à-dire qu'entendre, c'est une faculté physique, et l'écoute, c'est une volonté de comprendre ce qui se passe. Donc on a beau se réunir depuis un an, c'est le constat qu'ont fait nos deux syndicats, on est toujours pas écouté. Donc se réunir pour rien, on fait que nous dire on ne sait pas, on verra, on a un budget contraint. C'est le gros problème, il est là, c'est-à-dire qu'on a quasiment rien obtenu depuis un an. Et on a besoin de moyens supplémentaires, à la fois humains, logistiques, financiers, pour pouvoir mener à bien nos missions. Sinon, on ne pourra pas fonctionner en tant que fonction publique si on n'a pas de moyens. C'est pareil pour les entreprises, pour n'importe quel travail.
Donc ça concerne notamment les demandes de hausse de salaire et de primes. Et en ce qui concerne l'ambiance et l'atmosphère générale au sein du conseil départemental.
Alors, Voilà, il manque aussi des, il y a des postes qui ne sont pas pourvus, il y a donc un manque de remplaçants, et ça crée beaucoup de tensions puisque les collègues restants assurent le boulot des autres dans tous les services. Je ne peux pas vous détailler, c'est trop long, mais et du coup voilà un sentiment d'être abandonné par le conseil départemental, puisque encore une fois il n'y a pas de moyens, donc débrouillez-vous sur place. Et, voilà, nous on veut bien mener la politique de nos élus, mais encore faut-il qu'on nous donne les moyens.
Donc il y a des moyens financiers, salaires, primes, humains, donc de l'embauche, vous réclamez de l'embauche.
Voilà, des remplaçants, tout à fait.
Et dans des domaines en particulier ou c'est général ?
C'est plutôt général, c'est plutôt général.
Il y a des endroits où c'est plus aigu que d'autres ?
Alors il y a les routes par exemple, il y a le travail social, il y a manque de remplaçants. Et il y a aussi la médiathèque départementale où il y a deux postes qui ont été annoncés comme gelés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remplaçants. Et petit à petit, on leur a annoncé 30% de réduction de l'effectif. Donc ils sont 22 de mémoire, donc 30% dans 7 ans, ça fait quand même beaucoup de personnes en moins. Mmh. Et donc l'inquiétude, est-ce que ce service va perdurer ? Est-ce que la culture et la lecture publique sont des choses qui ne sont voilà des variables d'ajustement qui ne sont pas importantes ? Voilà, on n'a pas de réponse sur ce sujet.
Sur l'ambiance générale, malaise des personnels, en général, ces choses-là, ça se traduit par plus d'absentéisme, des malades, des choses comme ça. Vous commencez à le voir ou on n'en est pas encore là ?
Oui, ça commence, oui. Au bout d'un an, oui, ça commence à se voir, oui. Oui. On n'a pas les chiffres, on ne peut pas vous donner les chiffres, puisque c'est eux qui les ont. Et on a quand même 92 sites sur le département où il y a des agents du conseil départemental. Donc, c'est impossible de tout savoir. Mais, ouais.
De manière empirique, je dirais qu'on voit une augmentation d'aller 20%, moi, je dirais, des arrêts maladie courte durée. Hein. Ouais. Et qui ne sont pas les arrêts maladie de complaisance, comme des fois on a tendance à le dire, mais plutôt des gens qui en ont marre. On emploie le terme, on l'a marqué, le terme de mal-être, en fait, c'est ça. C'est quelque chose de très vague et très difficile à définir. Mais en fait, vous avez un projet de mandature dont on ne conteste pas le fond, puisqu'il est porté par une légitimité démocratique, mais on a plutôt un problème de méthode, en fait. C'est la façon d'appliquer ce projet de mandature où on ne voit pas très bien où on va, on ne voit pas très bien pourquoi, on ne voit pas très bien comment, rien n'est chiffré. Ça crée de l'incertitude, du doute, et ça crée un sentiment de mal-être chez les agents qui n'ont pas de visibilité à moyen terme de qu'est-ce que sera leur poste, leur avenir, leur fonction, leur service, etc. Donc il est assez urgent, je pense, d'éclaircir un peu tout ça et de revenir à quelque chose de serein pour que tout le monde se remette à travailler dans des bonnes conditions et soit aussi efficace au service des citoyens et les Aveyronnais. Hein. Tout le monde a envie de bien faire son travail et d'être efficace à son travail.
Alors, urgent, ok, je comprends bien votre urgence. Bon, le problème, c'est que là, on arrive fin juin, il y a l'été, il y a les vacances. Ça peut se résoudre avant la rentrée, ces problèmes-là, ou des rencontres, ou non, de toute façon, là, maintenant, c'est pas bon.
Le plus tôt possible, ouais. Le plus tôt possible. Pour, comment dire, certaines catégories de personnel qui ont été oubliées, comme les agents administratifs, les assistants familiaux, les maîtresses de maison, veilleurs de nuit, agents techniques et agents de la MDPH, on souhaite une rencontre dès juillet comme on le disait, rehausser leur régime indemnitaire, puisqu'on a obtenu pour les travailleurs sociaux la prime Ségur de 183 € comme l'hospitalière, et toutes nos collègues dont je viens de parler en ont été oubliées. Et c'est complètement injuste, on travaille avec elles tous les jours, et on va rentrer au boulot un matin, on aura la prime, elles l'auront pas. Alors que sans elles, le travail social n'est pas possible. Donc nous, c'est ce qu'on demandera mercredi prochain au comité technique. On souhaite en parler en juillet le plus tôt possible.
CFM Rodez, le MAG.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Les coulisses du Cap Mom sur CFM. Alors le Cap Mom, c'est quoi ? C'est un festival pour enfants qui a lieu les 22 et 23 juillet à la Primob. Le 22 juillet, c'est réservé au centre de loisirs et c'est complet, bien complet. Par contre, le 23, c'est réservé au grand public. Donc vous pouvez venir en famille avec les enfants pour assister à une cinquantaine de spectacles donnés par une vingtaine de compagnies. Les places sont en vente sur le site festic.net au prix de 8 € pour à partir de 6 ans. Et aujourd'hui, dans les coulisses du Cap Mom, je reçois l'équipe décoration avec Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Elisa, sa fille. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Alors Elisa a travaillé à son école puisque la mascotte de Cap Pichu, donc la mascotte du Cap Mom qui a été dessinée par Olivier Douzou, voyage au travers des écoles, crèches, maisons de retraite de la Primob. Et l'école d'Elisa a eu la chance de la recevoir la semaine dernière. Elisa, tu es dans quelle école ?
Jacques Prévert.
D'accord, c'est sur Luc ?
Oui.
C'est à Luc, Jacques Prévert. Donc il y a Capitchou qui est venu vous rendre visite pendant 15 jours.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait avec Capitchou?
Il fallait faire des haïkus, c'est un poème japonais sur des contes. Il fallait choisir un haïku et l'illustrer.
C'était sympa de travailler avec Capitchou sur ce domaine?
Oui.
Pauline, tu es bénévole depuis 2019. Quelle était ta motivation pour venir faire bénévole pour le Cap Mom?
Alors moi, j'ai découvert Cap Mom, je ne sais plus quelle année exactement, mais je l'ai découvert quand c'était à l'ESSAC. Mmh. Donc j'y ai amené mes enfants et j'ai vraiment été... C'était vraiment une journée incroyable où on a découvert des spectacles tant dans la poésie que dans l'humour, que dans la prouesse et vraiment les performances. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce festival. Et quand j'ai su qu'il était à Luc Laprimov, donc ma commune où je vis, eh bien ça a été une évidence pour moi de me dire il faut que j'y participe, il faut que j'aide. Surtout qu'en fait ça me permet aussi d'intégrer et de faire participer encore au plus près ma fille et mes enfants et leur faire découvrir l'univers associatif. C'est vrai que c'est très enrichissant et je suis fière et j'avais envie de leur faire partager ça.
Pauline, tu es dans l'équipe décoration, mais tu es aussi donc au bureau de Cap Mom. Depuis quand tu es à l'association Cap Mom?
Depuis la première année, depuis que le festival a déposé ses valises à Luc, la Primob.
Oui.
Depuis, dès la première année, je me suis investie dans ce festival.
Tu as toujours été à l'équipe déco ou tu as fait plusieurs commissions?
J'ai toujours été à l'équipe décoration.
D'accord. Alors, l'équipe décoration, c'est qui? C'est quoi?
Alors, nous sommes trois pseudo-responsables. Mmh. Donc, moi-même, Isabelle et Claudie. Mmh. Donc, à toutes les trois, on essaye un petit peu d'organiser des ateliers déco. Donc, en fait, l'objectif sera de décorer le festival, donc le plus joliment possible et de manière la plus complète possible. Et donc, nous organisons des ateliers déco là depuis... depuis le mois d'avril, tous les samedis, de 14h à 17h, donc au local 6 rue du Stade à la Primob. C'est nous qui avons choisi le thème du Cap Mom cette année, donc autour du conte. Et donc nous avons imaginé des décors autour de plusieurs contes pour décorer les jours de festival.
Alors moi j'ai vu quelques photos, j'ai vu qu'il y avait la maison des trois petits cochons notamment.
Tout à fait, alors trois maisons pour oui. trois petits cochons, oui. La maison en bois, la maison en paille et la maison en briques.
Oui.
Donc en briques de lait, hein. On essaye de travailler autour de la récupération, donc on récupère beaucoup d'objets, des bouteilles, des briques de lait, tout ce qui nous passe un peu par la tête, qui est pour être un bon support pour imaginer des décors.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme décor à part la maison des trois?
Alors, on a imaginé, on a quelques maisons, puisqu'on a imaginé aussi une maison autour de Hansel et Gretel, donc avec oui. des friandises. Autour de Blanche-Neige, avec des pommes, avec les sept nains également.
Je sais que vous avez fait des bancs en palette. Hein.
Alors, les bancs en palette, ouais, chaque année, on essaye d'augmenter le nombre de ces bancs et des tables aussi. On a fait des tables entourées champignons.
Oui. Oui.
Donc avec des champignons rouges à gros pois blancs.
Que de la récupération, le plus possible en tout cas.
C'est ça, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Et c'est vrai que c'est très plaisant de partir de pas grand-chose et de voir finalement des décors prendre vie et de penser qu'après ils iront occuper le site. Alors chaque année on est toujours un petit peu déçu parce qu'on aimerait on a l'impression dans notre local qu'il y en a beaucoup, que c'est grand, et une fois sur le site ça semble toujours un petit peu perdu, mais chaque année on travaille à essayer de se fixer des objectifs plus importants. Et cette année encore, donc voilà, on a travaillé autour de, je dirais, 8 ou 9 contes pour proposer, voilà, alors des éléments qui font penser aux contes. Alors pas toujours les personnages, hein, parce que c'est pas forcément ça l'objectif de dessiner Blanche-Neige, de dessiner. L'objectif, c'est plutôt de trouver des éléments qui font penser aux contes et qui baignent dans l'univers, qui nous font baigner dans l'univers du conte.
Toute cette décoration est préparée le samedi après-midi. Ben, tout le monde est bienvenu pour participer. Vous n'êtes pas que trois, vous êtes toute une équipe. Il y a aussi les enfants qui participent, les messieurs avec leurs perceuses visseuses aussi qui viennent. Il y a de la peinture, il y a du dessin, il y a de l'assemblage, il y a plein de choses. C'est ouvert à tout le monde. C'est tous les samedis de 14h à 17h, 6 avenue du Stade à la Primoire, c'est juste à côté du Café Tabac à la Terrasse. Vous êtes bienvenus si vous souhaitez participer et tout ce qui sera créé sera sur le site de la Vallée Verte pour le festival Cap Mom les 22 et 23 juillet. Alors toutes les deux, bon, Pauline, tu es bénévole, Elisa, tu es festivalière à Cap Mom depuis de nombreuses années. C'est un festival où tu aimes participer?
Oui.
Ça te plaît les spectacles?
Oui.
Il y a un spectacle dont tu te rappelles qui t'a beaucoup plu?
J'ai beaucoup aimé les Zigatok.
C'était l'année dernière?
Deux ans.
Deux ans.
C'était un spectacle de quoi?
Ben, c'était des musiciens qui avaient comme une petite roulotte qui se baladait et qui faisait de la musique.
D'accord. Alors, dans le festival, cette année aussi, il y aura des musiciens. Il y a aussi des clowns, il y a de la magie, il y a du cirque. Globalement, il y a du théâtre de rue. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges.
C'est ça.
C'est ce qui est bien. Pauline, toi, tu as un bon souvenir à partager avec nous?
Alors, j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai pas... Mais en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'idée de partager, de faire quelque chose avec des personnes qui, au départ, je ne connais pas, et puis que j'apprends à découvrir et que je découvre au fur et à mesure de l'organisation, de tout le travail qu'on peut faire. Et c'est ça que je trouve très enrichissant et très plaisant. Alors, je vois même aux ateliers déco, quand on arrive, des fois, on a tendance un peu à discuter, à papoter. Et puis voilà, moi, ce que j'ai à cœur, c'est qu'on se mette au travail et qu'on discute en travaillant. En fait, c'est plus ça, mon dada, je dirais, plutôt que de se retrouver juste pour discuter, c'est se retrouver pour œuvrer à quelque chose de beau comme le Festival Cap Mom.
On peut l'annoncer, la prochaine réunion des bénévoles, Pauline, c'est jeudi prochain.
Le 23 juin à
20h30. À l'espace Saint-Exupéry à la Primob. L'information est donnée sur Facebook et Instagram. Donc, il y a une équipe qui travaille toute l'année, qui est composé de 15-20 personnes, on va dire que ce sont les responsables de commission. Et après, ben, le jour J, les 22 et 23 juillet, on a besoin de monde. Donc là, tout le monde est bienvenu, parce qu'on a besoin de monde pour accompagner les artistes, pour guider les gens, pour servir à la buvette, servir au snack, aider à la restauration. Donc on a besoin de toutes les mêmes, même un petit peu avant pour installer, un petit peu après aussi pour ranger, quand tout le monde est fatigué. On aime bien qu'il y ait des nouvelles énergies qui arrivent pour rebooster et nous aider. Donc si vous avez envie d'être bénévole, vous pouvez venir donc jeudi 23 juin à 20h30 à l'espace Saint-Exupéry à la Primob pour la réunion des bénévoles. Vous pouvez suivre sur Facebook Cap Mom, sur Instagram c'est Capichou pour les prochaines réunions que nous faisons pour les bénévoles. Alors merci Elisa d'être venue dans les coulisses du Cap Mom sur CFM Radio. Merci Pauline pour ce partage d'expérience. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dans les coulisses du Cap Mom sur CFM Radio.
Merci Emeline, c'est déjà la fin du MAG pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, même heure, bien sûr, pour une nouvelle édition.